Champagnac, enfant réclamé par deux pères. Enlever un enfant à ses parents, le porter dans une famille étrangère qui le reçoit comme s'il lui appartenait véritablement, et qui croit même le reconnaître, troublait tellement les idées de cette faible créature qui finissent par ne plus savoir quels sont ceux à qui il doit le jour. Telle est l'entreprise hardie, immorale et inhumaine dont nous allons rendre compte. Michel Richer avait eu 7 enfants de Marguerite le Rouge, qu'il avait épousée en 1762. De ces 7 enfants, il n'en restait plus que 2 au mois d'avril 1773. Pierre-François Alexandre et Étiennette Marguerite. Pierre-François Alexandre, né le 29 septembre 1769, était infirme depuis sa naissance. Il semblait ne vivre que pour souffrir. Un sang impur circulait dans ses veines. Des humeurs scrofuleuses le minaient insensiblement et se le manifestaient en dehors par des plaies dégoûtantes. Tous les traitements imaginables, tous les secours de l'art étaient impuissants à la guérison de cet enfant qui avait été jugé impossible. Comme on craignait que cette affreuse maladie se communiquât, M. Richer crut devoir séparer ses 2 enfants. Il mit son petit malade en pension à Vaugirard, mais Étiennette Marguerite étant morte quelque temps après, Pierre-François Alexandre revint à la grande maison paternelle. Cependant, Richer ne désespérait pas de la guérison de son enfant. On lui conseilla de le mettre à l'Hôtel Dieu comme étant le lieu où il serait, disait-on, à portée de recevoir des secours que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il consentit et conduisit son fils à cet hôpital le 5 avril 1774. Comme cet enfant était doué d'une physionomie douce et d'une figure agréable, plusieurs religieuses s'intéressèrent à lui. L'hôpital Saint-Louis servait de succursale à l'Hôtel Dieu pour les maladies susceptibles de se communiquer. On y transporta le petit Richer. La sœur Sainte-Lucille de l'Hôtel Dieu écrivit aussitôt à sa sœur Sainte-Claire, qui était à Saint-Louis, une cheftaine de la salle Sainte-Marie, où l'enfant devait être déposé, pour le lui recommander avec insistance. Sur cette recommandation, l'enfant fut couché seul dans une manne. Le dimanche suivant, le sœur Richer alla visiter l'enfant. Il le trouva toujours souffrant, toujours couvert de plaies. Il demeura près de lui jusqu'au soir et le pressa en le quittant sur son sein paternel dans lequel il avait peine à retenir ses sanglots. Faisons connaître maintenant l'intrigante dont les manœuvres adroite et odieuse, joue un grand rôle dans cette intéressante histoire. Au mois de février 1773, le nommé Jacob Baumann, batelier à Strasbourg, demeurant à Paris, rue des 5 Diamants, et il demeurait avec une personne qu'il disait être sa femme et dont un enfant dont il croyait être le père. La nommée Marguerite d'Oppelscheinitz, veuve de Pato, native de Strasbourg en Alsace, femme de Guillaume Roune le Jeune, officier de maison, tenait une tabagie rue Porte-Saint-Ouen, Martin. Elle y recevait principalement des Alsaciens et des Allemands et logeait des filles de ces mêmes contrées. Le mystère profond dont était enveloppé le mariage de Baumann avec une de ses filles déroba de détails qui auraient pu jeter un grand jour sur la conduite de la femme le jeune. Baumann, après son mariage, était allé à Strasbourg avec sa femme qui accoucha d'un garçon le 2 novembre 1770. 16 mois après, c'est-à-dire à la fin de février 72, il revint à Paris avec sa femme et son enfant, puis retourna à Strasbourg au mois de février 73, laissant à Paris sa femme qui le suivit quelques jours après qu'elle fut encore en dépit de son enfant à la femme le jeune. Cette intrigante faisait publiquement à Paris profession de charlatanerie. Et quand sa tabagie, et en la quittant, elle s'était mise à débiter un secret qu'elle disait merveilleux pour la guérison des hémorroïdes et des rhumatismes. Elle s'était déjà fait annoncer dans les petites affiches comme possédant ce précieux spécifique. Là, le jeune se trouva donc dépositaire de l'enfant Baumann. Cet enfant, disait-on, attaqué d'humeur froide. Nous ignorons ce trait. Toutefois, en admettant cette supposition, il est présumable que la femme Baumann avait confié son enfant au charlatanisme de la jeune, le jeune, dans l'espoir d'obtenir sa guérison. Mais cette misérable, dès que la mère fut partie, jugea plus commode et moins dispendieux pour elle de se débarrasser de cet enfant. Elle le fit recevoir le 2 mars 1773 aux enfants trouvés, et le lendemain, il fut transporté à la Salpêtrière. De là, conduit malade le 22 décembre de la même année à l'hôpital Saint-Louis, où il mourut le 23 mars 1774. L'enfant Richté ne fut connu et conduit à cet hôpital que le suivant, mardi suivant, avril. C'est-à-dire 11 jours après la mort de l'enfant Baumann, et dans une salle autre que celle où celui-ci avait été placé. Cependant, Jacques Baumann, de retour à Paris à la fin de mars 1774, se proposa de retirer son enfant de la Salpêtrière. On lui apprit qu'il avait été porté. Il voulait le ramener à Strasbourg. Ah, là, le jeune ne fut pas sans inquiétude lorsqu'elle vit à son arrivée celui qui lui réclamait son enfant, dont certainement elle n'ignorait pas la mort. Mais, pour cacher l'énorme abus qu'elle avait fait de la confiance de ce père infortuné, elle conçut un coup ambitieux dans lequel tout autre que cette femme aurait peut-être échoué. Il est même probable que tout autre n'aurait jamais osé en concevoir la pensée. En fait, il ne tombera dans l'esprit de personne d'enlever un enfant à son père pour le donner à un étranger, sans y avoir un intérêt quelconque. On ignore quel pouvait être l'intérêt de la jeune. Le 19 avril, cette femme, après avoir pris toute mesure, se rend à l'hôpital Saint-Louis, entre dans la salle Sainte-Marthe, voit l'enfant Richer et demande à la domestique à qui elle doit s'adresser pour avoir la permission de l'emporter. On lui indique la sœur Sainte-Claire, et pendant que l'on avait à avertir cette religieuse, le jeune fin doté du bras de l'enfant, le billet qui servait à le faire connaître, et dit, après l'avoir lu, qu'elle ne s'était pas trompée et que ce billet annonçait l'enfant qu'elle cherchait, sans dire cependant le nom écrit sur le billet qu'elle serra dans sa poche. On dit qu'elle feignit d'ôter ce billet, parce qu'en effet, elle ne l'avait pas ôté. La sœur Sainte Marie l'avait ôté à l'enfant dès son arrivée et le conservait dans un tiroir de sa chambre de petit malade, ayant des plaies au bras. Cette coupable simulation de le jeune avait donc pour objet d'en imposer aux personnes qui étaient auprès de la manne de l'enfant, et elle réussit en effet complètement. L'enfant, pour qui cette femme était une étrangère, manifestait de la répugnance à s'en aller avec elle. Il criait, il se débattait, il repoussait ses caresses. Pour l'apaiser, elle lui donna un petit pain et des œufs rouges. La sœur Sainte-Claire, qui survint, lui demanda ce qu'elle souhaitait. Bien, je viens, répondit le jeune. Sans être déconcerté, je viens retirer cet enfant qui appartient à un homme arrivé de 100 lieues pour le chercher. Oh, mais je ne vous connais pas, lui répliqua la religieuse. Je ne remettrai cet enfant qu'au père. Eh bien, je vais le chercher, le père, dit là le jeune en sortant. Et quelques instants après, elle revint avec un homme qui avait l'air d'un paysan étranger et qu'elle dit être le père de l'enfant qu'elle réclamait. Ce paysan étranger n'était autre que Jacob Baumann, qu'elle avait amené avec elle, ce qui l'attendait dans la cour de l'hôpital. Dès que Baumann aperçoit l'enfant, il l'embrasse, se met à pleurer. La sœur Sainte-Claire veut lui parler, mais là le jeune lui fait observer qu'il n'entend pas bien le français. Et cette femme était si impatiente d'emporter l'enfant qu'elle ne voulut pas même attendre qu'on lui remît son habillement. Aussi, dès qu'elle les eut reçus, elle sortit précipitamment, emportant le jeune Richer. Il était environ midi. Le 21 du même mois d'avril, le sieur Richer se rend à l'hôpital Saint-Louis pour voir son fils. Il lui portait une robe de chambre, quelques hardes et des joujoux. Il demande où est son enfant. Qu'on juge de sa consternation lorsqu'on lui dit que depuis 2 jours, il a été enlevé. Pendant quelques instants, il demeure pétrifié de saisissement. La douleur profonde où il était plongé, l'agitation, la stupeur que lui avait causée cette nouvelle inattendue, frappèrent la sœur Sainte-Claire, qui reconnut qu'elle avait été trompée et qu'elle avait abusé du nom de l'abbé Deschamps, prêtre de service à l'hôpital Saint-Louis, pour enlever l'enfant. Elle écrivit au même instant à cet ecclésiastique pour l'informer de cet enlèvement et de ces circonstances. Le sieur Richer porta la lettre. L'abbé Deschamps ne connaissait pas là le jeune que par les annonces qu'elle avait fait insérer dans les petites affaires fiches. Il se broguera son adresse, se rendit chez elle et l'amena par degrés à avouer que c'était elle qui avait fait l'enlèvement. Après avoir arraché cet aveu si précieux, l'abbé Deschamps appela le sieur Richer, qui l'avait accompagné jusqu'à la porte de la maison. Richer monta. Là, le jeune lui répéta tout ce qu'elle venait de dire à l'abbé Deschamps, mais comme elle craignit que son crime n'eût des suites fâcheuses, elle fit cette fois tous ses efforts pour se justifier d'avoir favorisé l'enlèvement de l'enfant et d'y avoir coopéré. Elle raconta ensuite tout ce qu'elle avait fait pour préserver au du froid l'enfant, qui avait été conduit à Strasbourg, qu'elle lui avait donné une robe de chambre de l'un de ses enfants, en remplacement de laquelle Baumann lui avait laissé la sienne, la redingote du sien. À la vue de cette redingote, « Mais voilà l'habillement de mon enfant !» s'écria Richer. « On a enlevé mon enfant. C'est un Allemand qui l'a volé !» Ce cri de la nature, poussé avec véhémence, alarma le jeune. Richter ne put retenir son indignation, ne put s'empêcher de lui reprocher d'avoir elle-même trempé dans l'enlèvement. Et ses reproches, le ton qui les accompagnait, échauffèrent tellement la bile de cette femme criminelle qu'elle se répandit en injures. Après cette rage, on entra en négociation. Là, le jeune promit de faire revenir l'enfant, et elle demanda même de l'argent pour des démarches qu'elle ne finit pas. Et l'enfant n'arrivait pas. Richter et sa femme étaient désespérés. La sœur Sainte-Claire informa le lieutenant-général de la police du royaume du fait de l'enlèvement. Ce magistrat était au prêteur de Strasbourg où l'affaire resta sans solution. Pour ses retards, la tendresse paternelle inspira Richer. Il se rappela qu'il avait connu autrefois à Strasbourg un maître tailleur nommé Delille. Il lui écrivit aussitôt pour le prier d'aller voir son enfant, dont il lui donnait le signalement le plus complet, indiquant avec la plus fidèle minutie le nombre et la nature de ses plaies et les endroits de son corps où elles étaient placées. De sorte qu'à la lecture de cette lettre, il était impossible de se méprendre sur la conformité parfaite du portrait avec l'original. Le sieur de Lille, après avoir vu l'enfant, après avoir examiné ses plaies, convaincu qu'il appartenait bien à Richer, alla trouver le prêteur de Strasbourg, lui lut la lettre de Richer et le mena voir l'enfant. Le prêteur écrivit aussitôt à l'un de ses agents à Paris pour prendre des informations sur le sieur Richer et sur l'enlèvement de son enfant. Les renseignements obtenus par cette voie lui furent entièrement favorables à la réclamation de Richer. Cette réception ignominieuse et cruelle irrita la douleur de Richer. Il rendit plainte en vol et en enlèvement d'enfants, nommément contre la Lejeune le juillet 1774. Sur la plainte, intervint une ordonnance portant permission d'informer. 5 témoins furent entendus et il résulta de leur déposition que l'enfant contestée était véritablement celui de Richer. Alors là, le jeune et beau man fut décrété de prise de corps, et là, le jeune le conduit en prison et interrogé. Et là, comme le jeune demanda sa liberté sous caution, mais comme elle ne trouva personne pour la cautionner, elle se vit forcée de déposer 1500 livres. Rendue à elle-même, cette intrigante voulut charger Beaumann pour se disculper et pour recouvrer, s'il était possible, les 1500 livres qu'elle avait déposées. Mais on n'eut aucun égard à sa demande. Et l'on fit venir, à ses frais, Beaumann et l'enfant à Paris. On conçoit aisément quelle joie dut causer au père et à la mère l'heureuse nouvelle de l'arrivée de leur enfant. Ils coururent aussitôt chez le jeune, où Beaumann était descendu. Ils étaient accompagnés de plusieurs personnes de la maison et de leur voisinage qui toutes connaissaient leur enfant. Lorsqu'ils entrèrent, l'enfant s'écria avec l'accent de la joie « Oh, voilà maman! Voilà maman !» À ces mots, la dame Richer tomba évanouie et revenue de cette crise, elle voulut prendre sur ses bras l'enfant qui était assis, mais il se raidit pour ne pas se relever. Elle lui demanda pourquoi il refusait de venir dans ses bras, et l'enfant sourit en disant tout bas à son oreille « On ne le veut pas !» Richter fit sur le champ plusieurs questions à l'enfant, qui répondit à toutes avec justesse. Il dit qu'il reconnaissait toutes les personnes qui étaient venues avec son père et les nomma séparément, chacune par son nom. « Oh, c'est assez !» dit alors Richter, « Allons-nous-en !» Et ils s'en allèrent. Quand ils sortirent, l'enfant leur dit adieu à tous. Le mari de la jeune qui était présente à cette scène n'y fut point insensible. Il y fut même une vive réprimande en présence de toute l'assemblée. « C'est mal à propos, lui dit-il avec aigreur. Vous vouliez faire croire que cet enfant est celui de Beaumann. Vous voyez bien le contraire. L'enfant ne parle pas allemand, mais bien français. Il reconnaît très bien son père, sa mère et leurs voisins. Il ne faut donc pas parler autrefois que français. Voilà comment vous faites toujours. Soyez dans quel embarras vous nous mettez. » Baumann se rendit ensuite en prison avec l'enfant. Dès que Richter et sa femme surent que leur enfant avait été conduit au Grand Châtelet, ils y coururent. L'entrevue eut lieu entre deux guichets en présence de Baumann. La femme du concierge s'approcha de l'enfant pour le rassurer, car il paraît que la jeune et Beaumarchais, Beaumann, l'avait intimidé par des menaces. Il se trouva là autre enfant un peu plus âgé qui savait parler allemand. On fit parler ces enfants ensemble. Celui-ci demanda à l'autre en français lequel de Beaumann où le sieur Richer était son père. Celui-ci dit, en murmurant, en montrant Richer. Et quelques temps après, il fit la même question en demandant alors à l'enfant rougit et regarda en tremblant s'il ne serait pas après tout pas aperçu par Beaumann. Il tourna les yeux vers Richter en indiquant du doigt que c'était lui, son père. La femme du concierge, frappée de ce qu'elle venait d'entendre et de voir, sépara de Baumann cet enfant qui ne lui appartenait pas, et il fut conduire à l'infirmerie. Quelques jours après, à la requête de Richer, l'enfant fut mis en séquestre à l'hôpital Saint-Louis. Mais le croirait-on? À peine fut-il revenu dans ce pieux asile de la souffrance que la jeune conçut le dessein de l'enlever de nouveau. Cette fois, néanmoins, elle ne tenta pas l'entreprise en personne, mais on vit rôder pendant plusieurs jours dans les cours et dans les allées de l'hôpital des gens apostés par elle pour épier le moment favorable. Heureusement, toutes les malheurs furent découvertes et on ne laissa plus jamais rapprocher de l'enfant. Enfin, le Parlement fut saisi de l'affaire. Elle fut portée à l'audience de la tournelle criminelle qui renvoya les parties sa fin civile. Et le Châtelet fut arbitre du procès. On y produisit l'extrait d'entrée de l'enfant de Baumann à l'hôpital Saint-Louis, ainsi que son acte de décès, pièce victorieuse, qui dissipait tous les doutes s'il pouvait y en avoir encore. La femme le jeune fut convaincue d'avoir volé à l'hôpital Saint-Louis Pierre-François-Alexandre Richer à ses parents qui y avaient déposé. Les preuves de ce crime étaient complètes dans l'information. Là, le jeune, d'ailleurs, était convenu du fait dans son interrogatoire. Elle avait prétendu seulement, pour toute justification, que cet enfant appartenait à Baumann. Quant à Jacob Baumann, il était devenu coupable sans se douter qu'il le fût. Son erreur était tout son crime. Par sentence du Châtelet du mois de février 1771, l'enfant fut jugé être celui du sieur Richter et les demandes dommages-intérêts formées par le sieur Richter par Baumann furent compensées et la femme, le jeune, fut condamné aux dépens envers toutes les parties. On a lieu, ce me semble, de s'étonner de l'indulgence des juges à l'égard de cette misérable et vile créature. La justice ne devait-elle pas faire tous ses efforts pour découvrir les véritables motifs qui avaient pu la pousser à l'enlèvement de l'enfant Richer? La justice ne devait-elle pas également, pour assurer la société, punir sévèrement une femme qui n'avait pas craint de porter le trouble et la désolation dans une famille ?